Quinzaine spéciale du 10 au 22 novembre. Tout le programme sur espace2.ch.
Espace 2. Nicolas Juliard. Magma.
De la musique avant toute chose, beaucoup de musique en direct dans cette émission. Nous sommes au studio 15 de la radio, grand studio pour accueillir de nombreux musiciens, à commencer par le groupe Defen Lopez. Le multi-instrumentiste espagnol nous fait l'honneur d'une visite à quelques heures du concert qu'il donne ce soir à Genève. Ce concert, c'est le premier des Nuits du Monde, un festival qui célèbre de splendide manière les 30 ans des ateliers d'ethnomusicologie de Genève, avec un programme consacré aux rencontres fertiles entre Orient et Occident. On va en parler avec le directeur des ADEM, Laurent Aubert. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Magma. En deuxième partie d'émission, autre musicien qui nous fait le plaisir de jouer pour nous en direct, le pianiste Michel Vinch. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. On va vous entendre en piano, en solo, évoquer également avec vous votre trio, le Who Trio, qui revient avec un double album, un disque acoustique, un disque électrique et un concert ce samedi à l'AMR de Genève. André Beau, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Alors avec vous, on va se pencher sur le cas d'un des ballets les plus célèbres du répertoire, le fameux Casse-Noisette de J.D.
Si vous dites se pencher sur... Enfin, oui, faudra... On va se rendre au Grand Théâtre de Genève qui, depuis jeudi prochain et jusqu'au 21 novembre, oui, propose cette version épurée, dit-on, des références traditionnelles liées à ce grand classique, dont pas trop de sapin de Noël. C'est une version intemporelle du Casse-Noisette de Tchaïkovski, une version intemporelle signée par du chorégraphe, comment dire, belge Jeroen Verbruggen, pas un inconnu en Suisse romande. Il avait gagné le prix du public au prix de Lausanne en l'an 2000. Depuis quelques années, il est chorégraphe et on se réjouit naturellement de se rendre à ce spectacle véritable, fable sur le passage de l'enfance à l'adolescence, comme on dit dans les dictionnaires.
On entendra à votre micro le chorégraphe. Bruno Seribar réalise l'émission, Blaise Favre est à la prise de son, Chloé Gagliardini assiste la production. On est en direct jusqu'à 13h, c'est Magma, bienvenue. Et on commence en musique avec le groupe Abracadabra, nouvelle formation du musicien Efren Lopez. 5 musiciens autour du polyinstrumentiste espagnol. Il y a Myriam Encinas, Isabel Martin, Carlos Ramirez, Alexandre Guitar et Christos Parvas.
Thank you.
En direct du studio 15 de la radio et pour Magma, le groupe Abracadabra, nouvelle formation du musicien espagnol Efren López, qu'on entendait ici à la guitare, une guitare classique mais défraîtée, une guitare qui n'a pas les cases fixes, comme on pourrait dire, et qui permet de jouer toutes sortes de musiques, j'imagine. Laurent Houbert est avec nous, Efren López nous rejoint. Laurent Houbert, vous allez nous permettre de traduire les propos d'Efren López, je vous remercie par avance. Vous êtes ici parce que ce soir vous ouvrez le festival Les Nuits du Monde à Genève, organisé par les ateliers d'ethnomusicologie. Efren López, sur votre site internet, enfin bonjour d'abord, merci d'être ici. Sur votre site internet, il y a une biographie très drôle où on découvre que vous avez commencé à faire des chansons un peu punk à 10 ans, qu'ensuite vous avez fait du rock, et puis que vous avez petit à petit découvert toutes sortes de musiques et d'instruments. Et j'avais le sentiment que c'était vraiment précisément cette recherche de nouvelles sonorités, de nouveaux instruments qui, à chaque fois, vous a poussé vers de nouveaux apprentissages musicaux.
Sí, digamos que para nosotros esto que estamos tocando ahora es una música muy natural. O sea, quiero decir, desde fuera y si piensas en todo el trayecto que hemos recorrido hasta llegar aquí, parece ahí un gran cambio, pero también es una cosa que ha venido de una manera muy natural, ¿no?
C'est que pour eux cette musique est une musique très naturelle. Oui. Ça a l'air de venir de très loin, mais en fait la manière dont eux la vivent, c'est une manière de trouver une musique qui leur est très naturelle.
Et también esperamos que para el público también la perciba así, ¿no? Que no piense demasiado si es de aquí o de allí, sino que
Il espère que le public va l'apercevoir comme ça, c'est-à-dire pas essayer de comprendre, ouais, ça vient de ce pays ou de cet autre pays, mais juste se laisser imprégner par cette musique.
Mmh. Abracadabra, c'est une nouvelle formation. Est-ce que vous avez le sentiment, Efren López, que c'est un peu la synthèse justement de toutes ces années où vous avez expérimenté différentes musiques et qu'elles fusionnent dans de nouvelles compositions?
Sí, exactamente es eso. La idea de crear el grupo físico con personas físicas surge a partir de unos años de composiciones que estoy plasmando en un disco, ¿no? Y un poco para presentar esos temas en directo, ese nuevo proyecto, pues he invitado a estos amigos, ¿no? Que un poco están en la misma línea que en la que estoy yo.
Oui, l'idée de monter ce groupe est née en fait à partir des compositions qu'Efren a réalisées. Et il avait besoin de musiciens pour les jouer finalement, et donc c'est alors que sur l'enregistrement pour le disque lui-même joue de plusieurs instruments simultanément, enfin dans plusieurs prises, là il fallait d'autres musiciens pour le jouer, et donc il a eu la chance de trouver ces musiciens là qui correspondent exactement aux goûts musicaux que lui-même voulait développer.
Le profil de ces musiciens, Efren López, ce sont des gens qui comme vous ont touché un petit peu à toutes les musiques, à la fois toutes les musiques du monde et puis les musiques de toutes les époques, parce que dans votre recherche il y a aussi la musique médiévale, musique renaissance peut-être également.
Sí, beaucoup. Sí, ha surgido también de una manera muy natural encontrar estas personas, y de hecho ahora mismo para mí son imprescindibles, o sea, cada uno de ellos es como muy imprescindible, ¿no? Porque es muy difícil encontrar a personas que toquen la variedad de instrumentos exactamente que ellos tocan, entonces digamos que está muy hecho a medida de este grupo, ¿no? Esas composiciones y todo el concepto del concierto.
À son avis, chacun des musiciens qui l'entourent est indispensable à ce groupe parce qu'ils jouent tous de plusieurs instruments qui sont exactement les instruments et les sonorités que lui recherche dans ses compositions.
Laurent Houbert, ce groupe, j'ai le sentiment, fait partie d'une, est-ce qu'on peut dire ça, peut-être une nouvelle génération de musiciens qui embrassent la tradition, les traditions, vraiment par choix et pas parce que ça a été forcément leur racine, leur formation enfant. Certains viennent du rock, on voit ça aussi parfois des musiciens classiques qui tout d'un coup se lancent dans la musique traditionnelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est un phénomène relativement récent?
Plus ou moins. Disons que le phénomène a commencé à la fin des années 60, je dirais, avec le grand rush vers les musiques de l'Inde, notamment, auquel j'ai modestement participé, d'ailleurs. Et je dirais presque que c'est la deuxième génération de ce mouvement. Mais la différence entre la première et la deuxième, je crois qu'il y a une réelle professionnalisation. Mmh. Et maintenant, le fait de jouer une musique n'a plus rien à voir avec quelques questions génétiques ou d'origine. D'ailleurs, la première partie du concert ce soir, ce sont deux Japonais dont l'un joue de la guitare.
Oui.
Et donc, les frontières culturelles n'ont plus rien à voir avec le pays d'origine. N'importe qui peut apprendre n'importe quelle musique, il suffit d'y passer le temps.
Mmh, c'est ça. Et puis, sans forcément ramener tout à soi et à sa culture, disons, occidentale, si on veut, parce que c'est vrai que vous parlez des fusions des années 60, on avait le sentiment que, par exemple, le jazz ou le rock étaient encore très présents dans ces musiques-là, même si les musiciens allaient en Inde pour chercher de nouvelles fusions. Le rock, le jazz, ces musiques-là étaient encore... Oui, très présente, alors qu'ici, on a l'impression que vraiment, ils se fondent dans toutes les traditions qu'ils explorent.
Je ne sais pas si on perçoit encore l'influence du rock ou du jazz dans ce que Eiffel et ses amis jouent.
Non, justement.
Donc, ça veut dire aussi que je pense que le rock, comme le jazz, sont des très bonnes bases pour ensuite pouvoir s'intéresser à des musiques orientales, notamment, qui ont cette même liberté, cette même faculté d'improviser. Simplement qu'il y a des cadres, il y a des règles rythmiques, mélodiques, qu'il s'agit d'apprendre, d'intégrer, pour pouvoir ensuite les exprimer de l'intérieur. Il y a une espèce d'assimilation d'un front culturel qui prend du temps. Prend du temps. Et peut-être qu'un occidental va garder, comme quand on parle d'une langue étrangère, va garder un certain accent quand il joue cette musique, mais cet accent fait aussi partie de la beauté du geste.
Mmh. Quand vous avez appris chaque fois un nouvel instrument, Efren Lopez, est-ce que ça passe d'abord justement par l'apprentissage dans la tradition liée à chaque instrument, ou vous avez tout de suite fait votre propre musique?
Por lo menos personalmente siempre me gusta intentar ir siempre que me enamoro de un instrumento, digamos, suele ser de una manera escuchando algo bastante tradicional, ¿no? Entonces intento ir a eso. Yo no voy a poder tocar como un músico afgano o turco o cretense nunca, ¿no? Pero tampoco es la intención, ¿no? Pero sí que intentar acercarme en la mayor medida posible al estilo que he escuchado y que me interesa. Yo la música que suelo escuchar es bastante tradicional, en el sentido de no está hecha desde un concepto comercial o así, ¿no? Entonces imagino que, claro, lo que luego surge no es tan tradicional, ¿no? Porque es una mezcla de todas esas cosas, pero sí que la intención es ir a las fuentes más conservadoras, ¿no? Mm.
No, il dit que quand il approche une musique, comme la musique afghane, la musique turque, la musique crétoise, qui sont peut-être ses trois influences majeures, il essaye de les approcher de l'intérieur, c'est-à-dire de vraiment de s'imprégner de l'enseignement des maîtres traditionnels et de la jouer au mieux possible, et de vraiment d'entrer dans cette énergie musicale de chacune de ces cultures. Et par la suite, naissent des idées, naissent des projets qui sont issus de ces expériences multiples.
Mmh. Mais c'est fascinant parce qu'on a le sentiment que chaque culture pourrait nécessiter une vie pour être approchée. Et là, c'est vrai que vous les abordez rapidement, Efren Lopez, mais... Oh.
Estamos en ello todavía, eso no se ha acabado, ¿no?
Il est toujours en processus.
Je vous laisse rejoindre vos musiciens. On va vous écouter dans quelques instants dans un deuxième morceau avec votre groupe Abracadabra. Merci beaucoup d'être venu à Magma, Efren Lopez. Et Laurent Houbert, quelques mots avec vous sur cet anniversaire, les 30 ans des ateliers d'ethnomusicologie et ce festival Les Nuits du Monde. Est-ce que pour vous, ces 30 ans, c'est l'occasion d'un examen en forme de bilan et perspective ou pas du tout?
Pas vraiment, disons que le fait qu'on en parle peut nous inciter à nous poser des questions. Et d'ailleurs, ce festival, Les Nuits du Monde, enfin, cette édition du festival avec ses rencontres Orient-Occident, est assez atypique de notre programmation.
Oui.
Mais c'est peut-être une nouvelle piste qu'il faut suivre. C'est effectivement, comme vous le soulignez avant, il s'est passé beaucoup de choses en une génération. Et il y a maintenant des expériences de plus en plus intéressantes qui se font de musiciens qui sont souvent des biculturels ou des polyculturels, je ne sais pas comment dire, mais des gens qui ont maîtrisé plusieurs langages musicaux et qui, à un certain moment de leur vie, éprouvent le besoin d'en faire la synthèse ou des rencontres simplement entre des musiciens d'orientation différente qui se rencontrent des affinités. C'est par exemple un exemple, mercredi prochain, nous avons Renaud Garcia Fons, qui est un virtuose absolu de la contrebasse, qui va rencontrer un musicien turc, Derya Türkan. Et comme ils le disent eux-mêmes, le plus gros des instruments à archet rencontre le plus petit. Mmh. Et ça crée un espèce de dialogue musical où chacun apporte la patte de son expérience culturelle. Et ça, je trouve très intéressant aujourd'hui. Et ce sont effectivement des phénomènes nouveaux. Encore qu'il y a beaucoup de précédents.
Oui.
Il y a beaucoup de précédents. On peut penser au premier groupe Shakti dans les années 70, mm-hmm. qui a déjà fait ce genre de travail.
Avec John McAfee.
Simplement que ça reste toujours relativement marginal par rapport à tout l'aspect commercial d'autres musiques qui se vendent peut-être mieux.
Laurent Aubert, c'est aussi une grande année pour les ADEME, j'imagine, parce que vous avez un nouvel outil qui est ce nouveau MEG, nouveau musée d'ethnographie de Genève. Est-ce que ça vous apporte beaucoup aussi pour votre activité? Il y a un salon de musique désormais dans ce musée.
Oui, alors le salon de musique du musée, je ne vais pas en parler en leur nom, mais disons qu'il repose sur les archives musicales du musée,
oui.
qui sont nombreuses, il y a environ 16 000 heures de musique. Mais il y a d'autres choses. D'une part, la ville nous a attribué des locaux. Nous avons maintenant une succursale rive gauche avec des locaux de répétition dans l'ancien bâtiment du musée. Et par ailleurs, nous avons déjà des projets de collaboration qui vont démarrer fin janvier et qui vont se poursuivre en mars avec des coproductions ou plutôt des accueils que fait le musée de projets que nous leur proposons, des projets de musique, de danse, de théâtre. Et j'espère que ça va donner vraiment une nouvelle dynamique. En tout cas, ce musée qui vient de se réouvrir a attiré des foules ce week-end. Et c'est un magnifique espace avec vraiment... ils sont bien partis, je dirais.
Ouais. Bah, écoutez, on vous souhaite le meilleur pour ce nouvel élan que donne ce nouveau MEG. Le Festival Les Nuits du Monde, c'est donc jusqu'au 15 novembre avec des concerts, de nombreux concerts jusqu'à samedi donc prochain. On peut dire peut-être deux, trois mots comme ça. Il y a Dafer Youssef avec son quintet, qui est un des plus connus, disons, de cette affiche. Peut-être un autre concert que vous voudriez mettre en lumière dans ce programme, Laurent?
Il y a des gens assez variés, mais disons que... On peut signaler que demain soir, il y aura un concert d'un rocker du oud algérien qui est Mehdi Haddab, qui joue avec son groupe Speed Caravan,
oui.
alors qui est une musique qui est franchement une fusion réelle entre un langage de musique arabe qu'il maîtrise parfaitement bien, mais vraiment une sonorité rock. Certaines personnes l'appellent le Hendrix du oud. À part ça, il y aura des choses plus intimistes et plus délicates, je dirais, la semaine prochaine, notamment avec deux musiciennes iraniennes qui ont une double formation musicale, l'une et l'autre, l'une en tant que guitariste classique et l'autre en tant que clarinettiste. Et elles jouent des propres compositions qui sont directement inspirées par la tradition persane, mais avec des instruments occidentaux et des techniques compositionnelles occidentales, mais deux iraniennes, avec des improvisations.
Ça, ce sera vendredi 14 novembre. Et puis, également un ciné-concert, des choses pour enfants, enfin plein de choses à découvrir. On va mettre le programme du festival en lien sur la page internet de Magma. Ce soir, double concert à la Cité Bleue avec Aki et Kunko, donc des musiciens japonais, ce duo japonais, et puis Efren Lopez et son groupe Abracadabra qu'on réécoute encore en direct dans nos studios pour un deuxième morceau. Thank you. un immense merci à Efren Lopez et ses musiciens du groupe Abracadabra, Myriam Encinas, Isabel Martin, Carlos Ramirez, Alexandre Guitar et Christos Palmbas pour cette musique en direct pour nous. Ils sont en concert ce soir dans le cadre du festival Les Nuits du Monde organisé par les ateliers d'ethnomusicologie de Genève. Ils sont à la Cité Bleue, c'est à 20h30 et le festival se poursuit jusqu'au 15 novembre. Vous écoutez Magma, une musique peut en cacher une autre, puisque notre deuxième invité, Michel Winch, est au piano. Il est en concert avec son trio The Who Trio ce samedi à l'AMR de Genève. Il nous fait le plaisir de nous offrir un morceau ici en solo sur le Steinway de notre studio. Thank you. Un grand merci, Michel Vinch, en direct, en solo, sur le piano de notre studio. Merci beaucoup. Venez me rejoindre. Je vous donne un micro.
Merci.
Prenez celui-ci. Merci beaucoup. Vous êtes en concert ce samedi avec votre trio, le Who Trio. J'avais le sentiment, en écoutant ici votre solo, qu'on retrouve des choses qui font partie de la musique de ce trio que vous formez avec Jerry Hemingway et Ben Oester depuis bientôt 20 ans, je crois. C'est une longue histoire. Et on va parler de ce trio et de ce concert, de ce disque aussi que vous faites paraître. Peut-être un mot sur ce solo. J'ai le sentiment que c'est un exercice que vous avez beaucoup développé aussi. On peut voir sur YouTube notamment des vidéos où vous êtes dans un rôle presque d'homme orchestre, Michel Vinch. Avec par exemple des choses au pied, un tambour
au pied.
Oui,
j'ai eu un projet qui s'appelle Metapiano. Effectivement, j'avais mis des grosses caisses sous le piano,
oui.
Et des trucs comme ça, et j'avais envie d'utiliser mes pieds. Voilà, c'est vrai que c'était une époque. Et le solo, c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie, et que, voilà, en tant que pianiste, c'est assez naturel.
Oui.
On a un instrument riche, on a un instrument orchestre, effectivement. Après, homme orchestre, je sais pas, pourquoi pas? Je pense que le piano, déjà en soi, est un orchestre. C'est vrai que c'est aussi pour ça que peut-être j'ai laissé un peu tomber cette histoire de pied et de qui était une étape, quoi.
Oui, avec aussi des synthétiseurs. Je crois.
Alors, les synthétiseurs, restent présents. J'aime beaucoup ça. Le synthétiseur me permettant d'accéder à ce que je ne peux pas accéder avec le piano, c'est-à-dire jouer faux, par exemple. Jouer entre les notes du piano, qui est quand même bien tempéré. De pouvoir travailler aussi sur les attaques lentes, des tenues aussi qu'on ne peut pas faire au piano, qui reste un instrument basiquement de percussion.
Mmh. Acoustique, électrique ou électronique, ce sont les deux aspects qu'on trouve dans votre pratique avec ce Who Trio et qu'on trouve sur ce dernier disque où on a un disque acoustique, un disque électrique. Vous allez reproduire cette démarche, je crois, dans le concert de samedi avec un premier set acoustique, un deuxième électrique ou vice-versa ?
Oui, on va faire ça complètement, voilà.
Ça, c'est deux choses très différentes pour vous. On a le sentiment que dans les... je le dis comme ça, on va écouter tout à l'heure un morceau du disque électrique. Ce sont des morceaux assez longs, qui ont des longs développements, peut-être plus climatiques aussi, alors que sur le disque acoustique, on est dans des choses plus ramassées.
On pourrait dire ça. C'est vrai que le côté acoustique, il est avec nous depuis le début. Le trio est basiquement acoustique. Ça fait que depuis quelques années que les synthétiseurs sont rentrés un peu par la petite porte,
oui.
Et ont pris une place comme ça qu'on a décidé de garder. Effectivement, je pense que quand on est quand on utilise les synthétiseurs, on est plus ou moins plus coloré. Plus proche du rock. Et aussi, par moments, on peut jouer plus fort. Ouais, je sais pas pourquoi on a envie de les séparer. En tout cas, ça se fait comme ça. Moi, j'aime bien me plonger que dans le piano aussi. J'ai besoin. Je ne laisserai jamais tomber le piano. C'est mon instrument de prédilection.
Mmh. Alors, ce trio, on l'a dit, a bientôt une vingtaine d'années. Jerry Hemingway, le batteur, et puis Ben Oester, le contrebassiste, sont des musiciens très demandés, comme vous d'ailleurs. Donc, vous avez chacun des carrières avec beaucoup d'autres formations. Quelle est la vie de ce trio? Vous arrivez à vous retrouver régulièrement? Comment ça se passe?
Ouais, ça fait 20 ans que ça dure. Qu'est-ce que je dis, 20 ans plus, j'ai l'impression.
Ah, peut-être même plus. Ouais. Moi, j'avais lu 1995, mais peut-être que
oui,
c'est...
Oui, ça doit être non. Vous avez sans doute raison, je suis très mauvais avec les dates. Oui, ben, ça se poursuit au long des années. J'appelle ça les compagnonnages. On a des compagnonnages comme ça dans nos métiers. Effectivement, on est amené à collaborer avec plein de gens à travers des projets, etc. Et il y a des compagnonnages qui restent. On est vraiment des vieux, ouais, on est devenus amis. Il y a beaucoup d'amour dans ce trio, dans la musique. Alors il y a des périodes où on se voit beaucoup, des périodes où on se voit moins, effectivement. Mais je pense que c'est quelque chose qui va durer. Je touche du bois jusqu'à la fin. Enfin, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et c'est collectif. Chacun peut amener ce qu'il veut amener. Dans l'improvisation que j'ai faite tout à l'heure, j'ai cité un thème de Benz, de Benz Oester, voilà, qui est venu. Donc je l'ai laissé venir. On procède beaucoup comme ça, par improvisation. Enfin, on improvise beaucoup ensemble, donc on crée ensemble. Mais on a aussi des compositions. On a travaillé beaucoup de compositions au long des années et on peut les appeler en concert. On a eu une période où on a même eu des chansons françaises qu'on jouait parce que c'était quelque chose qui, moi... était dans mes racines. Brel, pour moi, c'est quelque chose de l'ordre de l'enfance, quoi. Donc, on les a joués d'une manière très libre. je crois que pour nous trois, c'est un quelque chose, ce trio restera quelque chose d'important. Mmh.
Dans le disque électrique, particulièrement sur ce double album qui s'appelle Zoo, c'est comme ça qu'on dit, il y a des musiques très climatiques et j'ai pensé forcément au travail que vous avez fait, travail important sur les musiques de cinéma. Vous en avez fait un certain nombre, notamment pour Alain Tanner et d'autres. Est-ce que c'est quelque chose qui justement est très présent quand vous composez, quand vous imaginez ces morceaux pour le trio électrique, Michel Vinch?
Je pense que je pense que oui. Je suis très très. On est très sensible aussi avec Jerry au cinéma, aux arts en général. Moi, je fais aussi beaucoup de photos. Tout ce qui est atmosphérique nous parle. On fait aussi de la randonnée en haute montagne ensemble. On est imprégné de tout ça. Et je pense que quand on fait de la musique, ces choses-là, elles reviennent. Et c'est vrai que moi, quand je joue avec eux, j'ai l'impression d'être dans un couloir de neige à 3000 mètres d'altitude. J'ai le même sentiment avec l'appel du vide et l'envie de décoller.
Je ne sais pas si on peut y voir un lien avec le morceau qu'on va écouter ici qui s'appelle Egg Mixer, peut-être le blanc des œufs.
Le Egg Mixer, les titres, c'est toujours une galère à trouver. Et dans une des improvisations, Ben a pris une baguette, il a commencé à jouer sur une lampe qui était dans le studio à faire des bruits comme ça pendant longtemps. Et puis du coup, on a dit, ce morceau s'appellera Lamp Bowl. Et puis du coup, on va prendre des choses très très communes, très très quotidiennes. Il ne faut pas chercher plus loin.
On ne va pas chercher plus loin, mais on va chercher à vous écouter. Merci beaucoup, Michel Vinch, d'être venu passer quelques temps avec nous à Magma. On va écouter donc un extrait de ce morceau Egg Mixer qui figure sur ce double album Zoo, un disque acoustique, l'autre électrique, et puis disque verni ce samedi à l'AMR de Genève. Merci beaucoup.
Merci.
Thank you.
Egg Mixer, un extrait du nouvel album du Who Trio, groupe de Michel Vinge au piano, Jerry Hemingway à la batterie et Benz Oster à la contrebasse. Ils sont en concert ce samedi à l'AMR de Genève à 20h30. Le disque The Who Zoo est sorti sur le label Oracle. Et puis, je vous signale qu'ils seront tous les trois cette fois-ci pour un live dans nos studios. Ce sera une session jazz mercredi prochain dans l'émission d'Yvan Hichère sur Espace 2 dès 22h40. André Beau, rebonjour.
Bonjour Nicolas.
On va terminer ce magma avec une ambiance féerique. La semaine prochaine, le Grand Théâtre de Genève présente le fameux Casse-Noisette de Tchaïkovski.
Oui, on passe de l'AMR au Grand Théâtre. On reste bien genevois.
On reste genevois aujourd'hui.
On reste genevois. Oui, oui, effectivement, c'est vrai que du 13 au 21, ce sera la fête au Grand Théâtre de Genève, le Casse-Noisette. Ouais, certains diront, ah, encore le Casse-Noisette, mais là... ça vaut vraiment la peine d'y aller parce que on va entendre le chorégraphe, c'est un jeune chorégraphe belge qu'on connaît un petit peu en Suisse romande. En 2010, il avait obtenu le prix du public au prix de Lausanne. Je parle donc de Jeroen Verbruggen. C'est lui qui pilote cette magnifique version de Tchaïkovski du Casse-Noisette avec l'orchestre de la Suisse romande, bien sûr, dirigé pas par n'importe qui, hein, par Philippe Béran. Et puis alors, voilà, on s'approche de Noël, on avait envie d'avoir un tout petit peu de gaieté, de musique, des musiques les plus universelles dans le fond, même s'il n'y aura pas de sapin de Noël dans le contexte de cette chorégraphie. Verbruggen a voulu se libérer un peu, on ose le terme, je dirais décontextualiser un tout petit peu le livret d'origine pour en faire une sorte de version intemporelle de ce Casse-Noisette. On va entendre justement, j'ai eu tout à l'heure au téléphone Jeroen Verbruggen au téléphone. Je lui pose des questions sur son impression, sur la musique et sa manière aussi de concevoir cette version 2014. On l'entend avec bien sûr quelques notes de Tchaïkovski.
Eh bien, c'est pour moi une musique. Déjà, je pense que c'est vraiment un chef-d'œuvre de Tchaïkovski, parce qu'il il touche à tout ce qu'il a fait dans tous les grandes œuvres, comme un Lac de Cygnes, qui sont des musiques magnifiques, mais qui sont très longs et où on pouvait peut-être enlever certains morceaux ou épurer. Et un Casse-Noisette de Tchaïkovski, oh, c'est juste, ça part du début à la fin, c'est tellement riche. Moi, j'aime bien aussi le côté un peu bombastique dans la musique. Les cuivres, ça, il y a une énergie énorme. Donc, en plus, dans mon travail chorégraphique, ça va très rapide. Il y a beaucoup de choses. On est un peu dans le baroque aussi, en quantité de mouvements. Donc, ça m'a inspiré vachement parce que ça part dans tous les sens aussi chez Tchaïkovski. Et c'est très émouvant aussi, certains passages.
Alors, parlez-nous de votre chorégraphie. Je lis quelque part dans la présentation du spectacle de la semaine prochaine une version intemporelle. Comment est-ce qu'on pourrait préciser un tout petit peu cette idée-là?
Ben, en fait, la chose la plus importante peut-être dans les yeux de tout le monde, c'est que j'ai enlevé, c'est le Noël, l'aspect Noël. Moi, j'ai enlevé Noël dans cette version parce que ça m'inspirait moins.
Pourquoi vous n'aimez pas Noël ?
Non, j'aime bien Noël, mais je trouvais aussi, quand on lit le livre de Hoffmann, Noël dans l'histoire pour le Casse-Noisette, elle est juste là pour... c'est un événement, on va dire, et de là par l'histoire du Casse-Noisette. Mais c'est juste un lancement pour se mettre dans une ambiance. On ressent ça très bien dans le livre. Donc, et d'un coup, je me suis dit aussi, c'est pas si important, parce que finalement, on suit vraiment cette histoire de Marie qui rêve d'un pays des merveilles. Dans son pays des merveilles, il n'y a aucun aspect de Noël dans ce livre non plus. Donc, je trouvais ça moins important, et d'un coup, ça va donner aussi un aspect à la pièce, que c'est intemporel aussi, c'est un tout saison. Et bien sûr, pour rassurer tout le monde, il y a quand même la magie de Noël. Noël, au départ, c'était pas non plus fixé sur un sapin Noël. Ça, c'est quelque chose après qui s'est rajouté. Donc, il y a quand même toute la magie et la festivité. On a gardé tout ça dans cette version.
Vous disiez tout à l'heure que vous prononciez le terme un peu, comment dire, de baroque. On peut l'utiliser dans votre conception de ce spectacle ?
Oui, il y a un côté un peu rococo aussi dans l'ambiance. En fait, j'essaye, ça ne s'est pas fait exprès, mais on est un peu dans un côté Tim Burton, The Nightmare Before Christmas, comme atmosphère, qui est quand même, Nightmare Before Christmas, c'est... Ça reste une histoire de Noël, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus obscur, tout en gardant un conte et tout en gardant la magie. Oui, c'est un peu plus dans ce sens.
Vous gardez l'œuvre intégrale pour la représentation qui a lieu au Grand Théâtre de Genève. C'est l'intégralité du Casse-Noisette ou il y a quelques coupures ?
On garde l'intégrale, on a juste un peu remixé les endroits de certains morceaux. Parce que ça collait mieux aussi pour l'ambiance et pour raconter mon histoire. Donc on suit pas l'ordre non plus du partition. Par exemple, dans le deuxième acte, c'est un divertissement dans les versions classiques. Moi, je raconte quand même l'histoire qui est basée sur le livre d'Hoffmann, mais je voulais raconter un peu plus de profondeur sur le personnage de Marie, sur le personnage de Drosselmeier, et je voulais vraiment raconter du premier acte jusqu'à la fin du deuxième acte cette histoire. Et d'un coup, les divertimenti dans le deuxième acte me posaient un peu problème parce que ça devient plus des petits numéros. Et juste pour la dramaturgie et aussi pour le rythme de l'œuvre, j'ai dû un peu remettre les choses sur des autres endroits pour que la conduite allait plus fluide, en fait.
Et vous gardez quand même les fameuses séquences où il y a des allusions à la musique, soit arabe, par exemple, bien sûr.
Oui, bien sûr. Oui, c'est... Non, tout est là, mais juste dans un autre ordre.
Mais... Est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même, en retravaillant un tout petit peu aussi bien l'ordre que la mise en évidence de certains passages, est-ce qu'il n'y a pas le risque de dénaturer un tout petit peu le chef-d'œuvre d'origine ?
Oui, je suis complètement d'accord, mais je pense que aussi si on veut vraiment faire un autre Casse-Noisette ou une autre version ou de le donner une autre ambiance, il faut justement prendre des risques pour faire un peu de changement. Et ça ne veut pas non plus dire que je ne respecte pas ce que Tchaïkovski a fait à l'origine. C'est juste pour le mettre dans un autre petit manteau.
Ces magnifiques glissandi de harpe, extrait du Casse-Noisette de Tchaïkovski. On quitte ici les propos de Jeroen Verbruggen, qui était à votre micro, André Beau. Le Casse-Noisette de Tchaïkovski, c'est donc au Grand Théâtre de Genève.
Depuis jeudi prochain, le 13 jusqu'au 21 novembre, au Grand Théâtre.